Bonjour, bonjour à tous, ou bonsoir peut-être. Pour ce 14e podcast, je vais ce soir continuer à vous parler de la motivation ou de la démotivation au sein des entreprises, parce que nous sommes dans une période où toutes les occasions de se réunir sont limitées et que des entreprises se demandent comment elles peuvent faire pour redonner un peu de sens ensemble, de sens pour donner de la motivation à des équipes éclatées et télétravaillant. Donc c'est l'occasion de justement revenir à soi. Je reviens sur une phrase donc, de Gandhi qui dit « C'est en nous que doit se faire le changement que vous voulez voir de par le monde ». Je trouve que justement cette phrase est plus adéquate que jamais, sachant qu'il est extrêmement difficile pour une entreprise, hein, comme je le disais, d'organiser des événements dans lesquels on peut avoir au moins l'impression, le sentiment d'appartenance et donc d'obtenir une motivation, quelque chose en plus, si vous voulez, qui va donner peut-être le coût d'électricité nécessaire dans une période un peu dure. Donc, que faire quand ça, c'est pas possible? Alors, on peut le faire en visio, ça n'a pas le même impact. Je dirais que c'est justement l'occasion de se focaliser sur ce qu'on peut faire pour soi, et comme disait Gandhi, que peut-on faire en soi, en nous, qu'est-ce qu'il est nécessaire de changer en nous, finalement, pour que ça change autour de soi. Donc si je suis un manager, si je suis un collaborateur au sein d'une entreprise, si je souhaite trouver une coopération, une collaboration, de l'entraide et des gestes bienveillants, je pose toujours la question à la personne, et vous, est-ce que vous l'êtes ? Vous voyez, donc souvent on ne se voit pas assez, il y a un phénomène étrange de miroir caché par un voile où finalement on va demander aux autres de changer, mais soi-même on ne le fait pas. Alors je vais vous parler de ça aujourd'hui. Tout simplement, ce qui m'a donné la puce à l'oreille là, pour ce podcast 14, c'est que je sors encore des interviews que je mène malgré tout, malgré le contexte, parce que nous sommes en février 2022, en France, malgré le contexte de télétravail, je le mène chez le client et des collaborateurs me disent que finalement, pour eux, la clé de la motivation ne va pas se retrouver dans le salaire, dans le statut. Certains, si, mais la majorité vont me parler plutôt de considération, non pas considération statutaire, mais d'être entendu quand je parle, vous voyez, d'être écouté, plutôt que de devoir répondre à l'injonction qui fait un peu comme un ordre descendant et que ça ne permet pas à votre avis de compter. Donc ça, c'est un sentiment assez partagé que je vois et qui est récurrent dans des entreprises qui butent comme ça sur une démotivation d'une population en particulier, alors d'une activité démotivée, vous pouvez être sûr que le style de management peut être en cause systématiquement quand il y a de la directivité, ça ne va pas générer une parole libérée, vous allez avoir beaucoup de retenue et les personnes vont au contraire apprendre à se débrouiller, vous voyez, en frassant, sans la hiérarchie, la hiérarchie me renvoie toujours des choses délicates ou difficiles ou des jugements de valeur, donc je vais l'éviter et je vais me débrouiller pour ne pas forcément la rencontrer. Et ça isole les personnes, pas toutes, mais des personnes qui sont déjà assez introverties, qui ont comme croyance forte que ce qui compte c'est la qualité du travail fourni et la quantité. Quand vous avez ça en tête, c'est difficile d'expliquer à ces gens qu'ils peuvent aller voir la hiérarchie et demander de l'aide, parce qu'eux vont me dire que c'est impossible. Ils vont me dire que c'est impossible et qu'ils en ont la preuve que plusieurs fois, ils se sont fait, entre guillemets, allumer. Donc, vous voyez, ça entraîne des phénomènes de démotivation. Et c'est pour ça que j'en reviens à la phrase de Gandhi, c'est qu'il dit « c'est en vous que doit se faire le changement que vous voulez voir de autour de vous ». Donc, à un moment donné, quand une entreprise me dit « je n'ai pas l'occasion de faire des grandes parades comme on l'a toujours fait », étant donné le contexte, elle peut, elle aussi, faire évoluer son style managérial, mais du haut de la pyramide. Il est important de le faire à tous les étages. Mais est-ce que tous les étages sont harmonieux, vous voyez ? Est-ce que les hiérarchies qui ont une image de personnes froides, directes, qui impressionnent, ou ce sont des personnes qu'on peut aller voir et qui sont dans l'ouverture, vous voyez. Donc, travailler par exemple dans une équipe dont je m'occupe en ce moment en région parisienne, je vois qu'on ressort beaucoup d'interviews préalables à une intervention collective hein, pour donner des principes d'écoute, d'échange et de solidarité, de convivialité dans des équipes qui sont assez séparées. Et le Covid a fait malheureusement beaucoup avec les confinements, le télétravail, pour encore plus séparer les personnes. On me dit il y a des mots durs qui découlent de certaines personnes qui ont des responsabilités. Alors, ce à quoi je peux répondre pour être un contradicteur ou écoutez, la pression fait que les mots sont peut-être durs. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi votre directrice juridique utilise des mots durs? On me répond justement que non. Il fut un temps, oui, ça passait, mais maintenant non, parce que la situation qu'on vit tous est stressante. Et si en plus ma directrice juridique, que j'apprécie malgré tout, utilise des mots durs, alors que c'est le contexte dans lequel on est, est une pression sur nos épaules, eh bien ça passe plus, voyez? Alors c'est pour ces raisons-là que je dis à mes clients aujourd'hui, mes clients entreprises, si vous voulez obtenir une adhésion, si vous voulez au moins que les personnes se sentent motivées alors que vous ne vous voyez pas depuis X temps, que c'est difficile de se retrouver tous ensemble, appuyez sur ça, recadrez le style de ce qu'on appellerait les soft skills, vous voyez, de vos décideurs, des gens qui ont le pouvoir, parce que si eux ne changent pas dans leurs paroles, alors qu'il y a un contexte extrêmement peu favorable aujourd'hui à la joie, vous obtiendrez automatiquement des personnes très démotivées. Il ne faudra pas s'étonner des réactions négatives, des déceptions et des colères, voire du désengagement de certains, parce que c'est ce que j'entends en ce moment dans une équipe, donc en région parisienne. Oui, ce genre d'ambiance dans laquelle les personnes ne suivent pas, je dirais, la directive très intéressante de Gandhi, hein, qui dit c'est en vous que de se faire le changement que vous voulez voir autour de vous. Donc imaginons des responsables qui sont directifs, qui utilisent des mots durs, qui envoient des mails sans un bonjour, par exemple, hein, mettant en copie beaucoup de gens. Est-ce que vous pensez que ça, c'est pas un facteur de démotivation? Voyez, donc je comprends que certaines entreprises se cassent la tête, réfléchissent sur comment motiver, mais le minimum dans la situation d'aujourd'hui, c'est d'envoyer de la considération à autrui. Voyez, si après un échange entre collègues, avec des échelons hiérarchiques différents, le sentiment d'un collaborateur, c'est la honte, on ne m'écoute pas, on me surcharge de travail, et quand j'en parle, on fait comme si ça n'existait pas, ou je sens que je ne peux même pas aborder le sujet. Vous pouvez faire tous les feux d'artifice que vous voulez dans l'entreprise, offrir une belle voiture, la démotivation, elle sera là, vous voyez? Alors oui, il y a des artifices que vous pouvez mettre en place, mais je pense qu'en ce moment, il est vraiment important de s'occuper des personnes au sens où il y a une responsabilité, je pense, possible de hiérarchique d'entreprise dans la démotivation de leurs troupes, et ce, dans les plus hauts lieux dans des entreprises, parce que le style directif, c'est culturel, parce que ça a toujours été comme ça, parce que si je veux m'imposer comme le ou la directeur général ou directrice comptable dans cet univers, je dois user de la parole et de la colère. Eh bien non, ouais, je dirais, la colère est salutaire, mais la colère, c'est surtout un signe en logique émotionnelle, donc en intelligence émotionnelle. Être en colère, ça veut dire je ne me sens pas reconnu. Donc ça, on en reparlerait si vous vouliez m'appeler, mais je peux vous le prouver. Lorsqu'on est en colère, c'est parce qu'on ne se sent pas reconnu tel qu'on aimerait être reconnu. Que ce soit l'assistante qui est utilisée pour servir le café, alors que ce n'était pas le but à l'origine et que c'est répétitif et qu'elle l'a fait au début pour rendre service, vous pouvez être sûr que vous aurez affaire à une assistante, si ça continue, qui sera en colère. Quand vous licenciez un collaborateur, même s'il est en faute, il sera en colère. Parce qu'on a peur de l'exclusion, donc la colère est un signe, si vous voulez, stimulé par la peur de l'exclusion. Donc, un des responsables à qui je m'adresse dans des entreprises et qui me disent actuellement comment vous motiveriez des personnes, j'ai tendance à leur répondre, et vous, si je vous parle mal, est-ce que vous vous sentirez motivé après cet entretien? On me répond non, je ne ferai plus appel à vous. Si vous voyez, c'est la même chose. Donc, c'est en nous, c'est en vous que doit se faire le changement. Pas évident, vous allez me dire, j'ai appris à être dur, j'ai appris à être ceci. Oui, sauf que si je vous dis que la dureté va impliquer une démotivation profonde de certaines personnes. Alors vous allez me répondre ce qui est faux, j'ai moi-même eu des patrons directifs, j'ai trois collaborateurs qui vont très bien dans cet esprit-là. Je leur dirai ouvrez un livre d'analyse transactionnelle, vous verrez très bien que votre style parental peut plaire à des personnes qui sont avec un état du moi enfant très développé. Donc évidemment, eux, ils attendent que ça. Mais c'est une croyance répétitive. Vous voyez, donc ce que l'on croit se répète. Donc si vous voulez convaincre la planète que vous avez raison, qu'il ne faut venir vous voir que parce que quand on a une certitude, vous pourrez toujours attendre dans votre bureau les gens, ils ne seront jamais assez parfaits pour venir vous voir parce qu'ils auront peur de ne pas être à la hauteur. Donc le changement à faire, il est d'abord en soi, mais il est partout. Il est chez le salarié qui n'ose pas franchir la barrière hiérarchique parce que lui aussi a ses propres peurs, mais il est aussi chez l'autorité. De mon point de vue, une entreprise, elle émet des messages, elle communique. Donc la responsable de communication fait son travail, il y a des téléviseurs dans les couloirs, il y a des messages qui arrivent par mail, c'est très inclusif, c'est très en vogue aujourd'hui d'utiliser ce terme-là, donc c'est très positif, très tolérant, mais ensuite c'est dans la communication entre les personnes que vous obtenez les premiers virus de la non-motivation. Vous voyez, si vous ne donnez pas le droit à l'erreur, si vous interrompez votre interlocuteur N-1, par exemple, il n'aura pas un sentiment positif d'une discussion avec son responsable. Donc je suis de ceux qui préconisent à ce qu'on appelle des managers hein, ou des décideurs, des leaders, qui préconisent la collaboration et moins la compétition. Donc c'est là où vous allez me dire, mais c'est pas possible. La compétition, ça m'a toujours stimulé. J'ai toujours appris et toujours constaté que la compétition est intéressante pour que votre ado un peu timide sorte de sa timidité et aille voir des groupes. Vous voyez, c'est un facteur intéressant, voire intrigant pour un jeune ado. Mais arrivé à 18 ans, 19 ans, si la compétition fait partie de sa vie, il ne saura jamais travailler avec les autres. La compétition n'associe pas les autres. Or, en entreprise, on a un travail d'équipe. La compétition est intéressante pour former un manque de confiance en soi. Mais quand on est jeune, une fois qu'on a les pieds dans l'entreprise, on peut très bien collaborer avec les autres parce que s'isoler, étant donné que le facteur compétition isole, ce n'est pas très positif pour la coopération, pour l'estime de soi également, puisqu'on peut faire fuir les uns et les autres, puisqu'on montre qu'on n'a pas besoin d'eux. Vous voyez? Donc le changement en fait à faire, il est dans la conscience individuelle de comment nous sommes, comment nous agissons chacun. La motivation, c'est l'affaire de tout le monde. Ça demande à ce que on se regarde d'abord dans le miroir, vous voyez. Alors, est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent amener les personnes clés de leur entreprise, leur organisation à certains niveaux, de voir où ils en sont sur leur pratique des politesses, des impolitesses, des dénigrements, des jugements, de la non-écoute, de la peur envoyée aux collaborateurs, de la pression qui est mise les uns sur les autres, et de bien montrer qu'en fait, en entretenant ce type en particulier de fonctionnement, c'est quelque chose qui, malheureusement, va être vu comme un facteur d'injustice, de non-compréhension et de démotivation par les gens qui observent tout ça. En tant que coach, je reste toujours étonné d'ailleurs de la puissance d'argument, vous savez, de deux personnes qui soi-disant dialoguent, mais qui ne s'écoutent pas. Donc, ce qui veut dire que le changement à faire pour obtenir quelqu'un qui écoute l'autre, c'est d'abord d'écouter l'autre. Mais moi, je ne vois pas cette écoute. Donc, je vois des personnes échanger, mais ce n'est pas de l'échange. Ces deux personnes argumentent en disant que leur vision du projet est la meilleure, mais ils exposent leur projet, ils exposent leurs arguments, mais n'entendent pas l'autre. Et donc le changement à faire, il est dans j'aimerais être écouté, je veux voir quelqu'un à l'extérieur, je veux voir dans un changement extérieur des gens qui m'écoutent. J'ai envie de vous renvoyer à vous-même, est-ce que vous, vous écoutez? Il y a des collaborateurs qui me disent, mon patron ne m'écoute pas. À leur grande surprise, eux, quand ils sont aussi managers, je leur dis, est-ce que votre image auprès de vos propres collaborateurs est d'être un manager à l'écoute? Eh bien, ce n'est pas ce que j'entends ni je vois. Et donc ça met toujours un blanc dans l'échange, dans l'entretien que je peux avoir dans la session de coaching. Parce que là, j'ai touché sans faire exprès, si vous voulez, le point faible, à savoir, je réclame de l'écoute de ma hiérarchie, mais moi-même, en tant que manager, je n'exerce pas cette notion d'écoute. Et on a ces jeux de l'analyse transactionnelle qui peuvent ressortir, à savoir, je suis une manager, je me sais observer, je vais faire avancer les projets de mon équipe, et puis les personnes de mon équipe qui n'avancent pas, je ferai le travail à leur place. Mais un jour, je leur dirai ce que je pense d'elles. Donc, c'est les explications un peu à la dure tous les 2-3 mois avec des personnes qui ne comprennent pas que pendant 2 mois, le manager ne lui ait rien dit. Et ce manager ou cette manager que je vois qui se plaint de ne pas être entendu par sa hiérarchie, eh bien, applique aussi une directivité. Mais vous voyez, la directivité, elle est stimulée par la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, j'allais vous dire, tout ce que nous pouvons faire, dans ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas d'accusation, pas de pamphlet, ni de culpabilité, mais c'est de vous dire, attention, l'effort à fournir, il est chez chacun. Si on veut de la politesse autour de soi, est-on poli soi-même? Si on a des personnes qui ne nous écoutent pas, quel est votre capacité à vous à entendre et à écouter. Ça, c'est vraiment très important. Voyez. Je me souviens d'un exemple, et j'en finirai dans ce podcast, il y a quelques années, où une personne se plaignait de l'assistante à l'accueil de là où j'ai mon bureau. Et tout était parti d'un sucre en trop, si je me souviens bien, dans son café. Lui étant sous pression, eh bien, avait surréagi, il avait, comme on dit, jeté sa colère sur l'assistante qui, évidemment, le lendemain, s'est plaint au responsable et le responsable est venu m'en parler. Donc j'ai moi-même, quelques jours plus tard, revu mon client, donc la personne que je coach. Je le coach sur sa communication, justement sur son style plus inclusif. Et j'ai saisi l'opportunité de lui raconter cette histoire du café. Il m'a trouvé toutes les excuses possibles et inimaginables pour même juger l'assistante, alors que finalement, je lui ai dit, mais vous savez, on a tous nos difficultés. Est-ce que vous pensez que pour un sucre dans un café, ça vaut le coup de se mettre à dos une assistante au point que le lendemain, sa hiérarchie vient me voir pour se plaindre d'un de mes clients? Et il s'est alors ressaisi et finalement, il m'a dit oui, c'est vrai, je suis sous pression. Et quand on est sous pression, eh bien, on ne voit pas. On ne voit pas ce qu'on fait aux autres. Et je ne voyais pas les agissements, me dit-il, qu'il était en train d'avoir. En fait, il me dit, je suis en train d'avoir les mêmes agissements que je condamne. Donc, lui était malheureusement managé par quelqu'un de très directif, d'une culture d'un autre pays, et parfois ces cultures peuvent être un facteur de différence fort. En tout cas, il n'avait pas réussi à bien s'entendre, et donc il était géré durement, et ce qui fait que lui était sous pression, et que, évidemment, pour obtenir ses résultats, il s'est mis à parler de la même façon. Donc, vous voyez, attention à ça. Voilà, j'avais envie de dire aux entreprises, je souhaite qu'elles puissent déclencher cette motivation collective, non pas qu'avec des stands qu'on ne peut pas faire en ce moment, des journées, des forums, mais peut-être de passer le mot, que chacun s'encourage, que chacun se fasse ce qu'on appelle des strokes, En coaching, ce sont des points positifs qu'on a envie de dire à l'autre. Vous voyez, cette culture de la tension, d'être moins directif, d'encourager un style managérial plus inclusif et plus à l'écoute et plus dans l'échange, c'est déjà un gros travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, étant donné ce qu'on a vécu depuis 2 ans, les personnes, vous, moi, tout le monde, on a besoin de se sentir écouté, on a besoin de sentir de l'attention. Eh bien, ça tombe bien. C'est là-dedans que je vous encourage à essayer d'avoir plus de gestes d'ouverture. Alors, comment mettre ça en place? Déjà, est-ce qu'au sein de votre entreprise, vous en parlez? Est-ce que vous en parlez ouvertement? Est-ce que ça fait partie de la newsletter? Est-ce que ça fait partie de ce qu'on peut se dire en comité de direction? Quels sont les messages que la hiérarchie fait passer sur ce besoin de représenter un management à l'écoute, qui ne dit pas oui mais, qui observe d'abord les mots qu'elle emploie, les gestes qu'elle a, est-ce qu'elle challenge ou est-ce qu'elle est dans l'accueil de personnes qui vont ainsi pouvoir revenir solliciter le soutien et discuter avec une hiérarchie. Donc plutôt que de passer à côté, vous voyez, puisqu'on ne peut rien faire sur la motivation en ce moment, on ne fait rien, moi j'ai envie de vous dire, il y a sans doute des actions à mener sur le management dans les entreprises en ciblant les personnes clés de vos organisations pour voir si déjà entre elles, il peut y avoir plus d'interdépendance, plus d'échanges dans l'ouverture, de façon à donner l'envie de venir se voir les uns les autres et que ça descende vers le bas. Alors on descend toujours vers le bas. Que ça descende et que ça remonte, oui, vers en haut. Voilà, j'ai envie de vous dire tout ça. Je suis en train de le faire dans, en fait, 3 endroits différents. Donc, je vous souhaite de pouvoir le faire. Alors, c'est sûr qu'on peut le faire avec ou sans coach. Pour moi, c'est une affaire d'authenticité, de se dire les choses et de parler vrai à ses managers. On peut très bien, en visioconférence aujourd'hui, leur demander de faire très attention à leur façon de communiquer, demander plus d'échanges de leur part, plus d'écoute dans l'interaction, moins de jugement sur les uns et les autres. Ces petits gestes-là dont Gandhi parle, c'est en vous que doit se faire le changement que vous voulez voir à l'extérieur. Voilà pour ce podcast 14. Je continuerai à vous parler de motivation. J'ai encore plein de choses à vous dire en la matière. Merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt.